Le prix gagne en amplitude, d'autant que cette année, l'année dernière déjà, on avait commencé. Au départ, il avait été conçu pour souligner le travail des bibliothèques municipales, départementales en France. L'année suivante, on l'a élargi aux bibliothèques universitaires. Cette année, on a décidé de l'élargir à toutes les bibliothèques francophones. Donc là, vraiment, ça prend une dimension internationale, si je peux dire. Et donc, le prix sort des frontières et donc il sera présidé par un écrivain qui incarne parfaitement la francophonie, qui est Dany Laferrière. Donc, sous son patronage, on est heureux d'élargir le travail que nous avons fait au cours des trois dernières années pour mettre en lumière le travail des bibliothèques, surtout, et on reste évidemment sur cette base-là, surtout pour élargir la fréquentation de leurs établissements, pour aller vers le public, pour les faire venir en bibliothèque par tous les moyens possibles. Le Grand Prix des bibliothèques 2013 fonctionne comme les précédents, à savoir qu'on a quatre prix qui seront attribués sur dossier. Donc le prix de l'accueil, le prix de l'animation, le prix de l'innovation et le prix de la décoration intérieure. Chacun peut envoyer des dossiers et concourir à un de ces prix, ou à tous, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez en fonction de vos points forts et de ce que vous avez envie de mettre en lumière. Le Grand Prix, évidemment, couronne l'établissement qui remplit toutes les conditions qui nous a paru à la fois étonnant sur tous ces chapitres en particulier, et toujours donc dans cette volonté d'aller vers le public. C'est bien puisse faire cette annonce ici alors que le thème c'est la dimension sociale de la bibliothèque, parce que c'est aussi là-dessus vraiment qu'on a mis l'accent. Et au fur et à mesure de l'expérience qu'on a accumulée dans ces trois ans, en fait ce qui nous est apparu de façon très forte, c'est comment les prix récompensés des bibliothèques qui arrivaient à bien dessiner une communauté avec leur public. Et ça, c'est assez frappant. Et du coup, ça fait un prix très chaleureux, très convivial, parce que justement, il souligne le travail de bibliothèque dans ses relations avec l'extérieur, avec la ville et avec le public en général. Donc, oui, Françoise Legendre est là. Donc, vous avez une petite partie du jury. Je vais vous donner le jury 2013, mais donc il y a Françoise Legendre donc, qui a reçu le Grand Prix l'année dernière, donc la directrice des bibliothèques du Havre, pour justement cette façon d'irradier dans la ville complètement. Il y a donc Claude Poisseneau qui et Laurence Sant'Antonio. Claude Poisseneau, vous le connaissez tous, je suppose, et donc universitaire, et il s'occupe vraiment, c'est notre chercheur sur les bibliothèques, et Laurence Sant'Antonio s'occupe de la rubrique bibliothèque à Livre Hebdo. À côté de ça, donc, comme je vous l'ai dit, le jury est présidé donc par Dany Laferrière. Il y a toujours trois bibliothécaires. Donc, le lauréat du prix précédent, donc Françoise Legendre. Il y aura aussi cette année Dominique Lahari, et toujours une bibliothèque qui n'est pas la responsable d'une bibliothèque pas française, et là, ce sera Françoise Durie, qui est directrice des bibliothèques centrales de Namur et présidente de l'Association professionnelle des bibliothécaires de Belgique. On a toujours un éditeur parce que, comme Livre Hebdo est totalement interprofessionnel, on souhaitait que ce prix aussi puisse avoir ce rayonnement interprofessionnel et implique les autres professions du livre. Donc, pour l'éditeur sera Olivier Bétourné, qui est PDG des éditions du Seuil. On aura aussi une libraire, toujours, il y a toujours un libraire. Donc là, ce sera une libraire qui est une libraire suisse pour donner cette ouverture à la francophonie dès le jury. C'est Sylviane Frédéric, qui est directrice des librairies, de la librairie à Morges, en Suisse. Voilà, donc il y a 9 jurés. Ce prix est soutenu par des partenaires qui sont de plus en plus nombreux. Et ça nous fait plaisir. Ça veut dire que vraiment, on voit, beaucoup de gens soutiennent ce prix, y croient, et donc ça nous fonde vraiment dans son utilité. Donc on a nos partenaires historiques hein, qui sont 3M et Dubiche qui ont parié avec nous dès le début sur ce prix et puis qui ont été rejoints très vite par Mondoin et par Bibliotheca et en plus cette année donc avec France Culture qui nous apporte aussi un soutien et un rayon et la capacité de rayonnement de cette radio. Je crois que j'oublie personne. Les sponsors sont dans la salle d'ailleurs si vous voulez les rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, peut-être aussi les dates. Bon, c'est juste ça, c'est important. La date de clôture des remises de dossiers est le 15 octobre, mais on vous demande de nous envoyer vos dossiers le plus vite possible, en fait. Oui, oui. N'attendez pas la dernière minute.
Vous avez jusqu'au 15 octobre. Vous avez chacun eu dans votre mallette, et puis c'est reproduit régulièrement dans Livre Hebdo, le formulaire avec le règlement et tout ce que vous devez savoir pour concourir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a aussi une adresse mail, grandprixdesbibliothèques@elect.com. Voilà,
c'est ça qui est dans vos mallettes. Donc, vous avez absolument tout.
Vous ne faites pas toute une montagne du dossier, parce que si vous êtes très motivé, s'il y a quelque chose d'important à dire, vous allez vite trouver deux feuillets comment les dire, et les documents annexes à joindre. Donc, il ne faut pas se décourager à l'avance. C'est simple si on a envie de participer et de faire savoir, finalement. C'est ça l'idée, c'est faire savoir. C'est
faire savoir tout, et faire profiter les autres de l'expérience. Oui. En fait, ça fonctionne, on s'aperçoit maintenant que ce prix fonctionne comme une formidable boîte à idées. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est une dimension de partager et de partage, quoi, en fait, qui est importante. Le prix sera remis solennellement au Sénat cette année, ce qui est quand même donc dans la bibliothèque du Sénat, la bibliothèque Médicis, oui. Ça sera remis le 3 décembre, donc j'espère que vous serez là. Voilà, merci beaucoup.
Il n'y a pas de questions.
Merci.
Pourquoi avoir choisi une session complète sur la question de la bibliothèque et le lien social? A priori, comme ça, on pourrait imaginer que ça va presque de soi, mais en fait, je crois que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. La bibliothèque, c'est bien connu, c'est d'abord un lieu, enfin, c'est tout à la fois, quoi. C'est un lieu de divertissement, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de lien social, bien entendu. C'est le lieu des liens, comme le dit Robert Damien, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange culturel. Et finalement, comment s'y retrouver? Alors, on va d'abord, avant de vous présenter mes invités, on va d'abord observer la statistique avec Alexandre Vialat. Notre siècle est celui de la précision, appuyé sur la statistique. La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans 8 cas sur 10, les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain. Ce qui confirme un pressentiment qu'on avait déjà de cette affaire, mais sans preuve scientifique et par pure intuition. Et voilà ce qu'il y a de beau avec la statistique. Ce qu'on savait bêtement avant elle, on le sait maintenant scientifiquement. Elle vient de braquer son microscope sur les problèmes pédagogiques. Et il y a plus de place pour le doute. Le premier de la classe est plus heureux que le cancre, 6,5 fois exactement, qui l'aurait cru. Personnellement, j'aurais 17. Voilà. Donc, la statistique nous dit quoi? Nous dit que, en 2010, par exemple, les heures d'ouverture hebdomadaires des bibliothèques municipales sont... Alors, le nombre moyen de jours d'ouverture par semaine est de 3,8. Je vous passe le détail des niveaux de bibliothèques selon le classement assez fin et assez pertinent de la DBDP, mais en gros... les heures d'ouverture des bibliothèques sont de 30% pour celles qui sont ouvertes plus de 30 heures par semaine, et ensuite les taux descendent à des chiffres assez réfrigérants. Combien aujourd'hui, alors 30 heures par semaine et plus, 10%, 20 heures à 30 heures, 27%, 12 heures, à 12 heures et moins à 20 heures, 27%. Combien de bibliothèques ouvrent maintenant le dimanche ? On sait, grâce à Georges Perrin, que les bibliothèques ouvrent de plus en plus le dimanche et qu'on peut en parler, en tout cas en France, sans risquer, comme c'était le cas il y a quelques années encore, de se faire poignarder au coin d'une rue. Mais cette question d'heure d'ouverture est un vrai problème social. Interrogeons maintenant les nombres d'inscrits. On sait qu'aujourd'hui, le nombre d'inscrits en bibliothèque municipale en France, puisque je vous présenterai ensuite nos intervenants, est d'environ 18%, les inscrits n'étant pas les fréquentants. Le Crédoc disant en 2009 qu'il y avait 28% à 30% de fréquentants en bibliothèque. Observons maintenant la prospective. Que disait le Crédoc en 2009 ? La prospective, par nature, est une science qui n'en est pas une. Et donc, le Crédoc nous disait, allez, encore un effort, soyez optimistes, dans une quinzaine d'années, la fréquentation des bibliothèques sera de 45 à 50%. Pourquoi ? Parce que les bibliothèques choisiront de prendre une orientation plus ludique, de divertissement, de choix de collection qui rencontrent, certes, l'adhésion du public, mais bien au-delà de ça, l'enquête faisait vraiment une espèce de bifurcation sur un rôle qui nous semble ici, en tout cas pour ce qui nous réunit tous ici, important, le rôle social et éducatif des bibliothèques, ou ce que Michel Wiewoerka rappelait ce matin, la bibliothèque doit développer ses capacités, ses capabilities, comme il disait, c'était assez beau ce mot d'ailleurs. Donc, la bibliothèque a un rôle social fondamental à jouer. Je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous en sommes plus convaincus que nous devrions chercher à nous convaincre. Et pour terminer mon introduction, et avant de présenter les intervenants, je ne peux pas manquer de vous lire encore un autre texte qui n'est pas de Vialat, mais de Jacques Roubaud, qui a été publié aux presses de l'ENSIB et qui ne coûte que 9 euros. Le titre, c'est « Lire, écrire ou comment je suis devenu collectionneur de bibliothèques ». C'est une conférence qu'il avait faite en 2008 à l'école, que vous pourrez consulter, regarder sur le site de l'ENSIB. Alors, il termine, parce qu'en fait, Roubaud, qui est un spécialiste des sonnets, visite beaucoup de bibliothèques. Et il dit, je termine sur une prévision à propos des bibliothèques, qui, de mon point de vue, est un peu pessimiste. Je ne suis pas totalement pessimiste, mais ça dépend des jours. Je suis parfaitement sensible au progrès que la technique donne, la possibilité de retenir pour moi une place à la Bibliothèque de France, sur mon bureau et de commander des livres. Depuis quelque temps, quand je commande, par exemple sur Amazon, où l'on peut commander des livres d'occasion publiés aux États-Unis, et je lis beaucoup de littérature en anglais, je reçois des volumes ayant appartenu à des bibliothèques publiques de l'Arizona, du Kansas, de la Caroline du Nord, etc., et qui ont été chassés de leurs rayons. Et je me dis que le temps n'est pas si loin où les livres, sauf ceux qui, étant rares et précieux, auront pris le statut de pièces de musée, deviendront les parents pauvres des bibliothèques, qui d'ailleurs, pour la plupart, comme cela se produit de plus en plus, ne seront plus des bibliothèques, mais des médiathèques, et que le lieu où je suis venu aujourd'hui vous parler, à l'ENSIB, dans quelque temps, ne sera plus ENSIB, mais ENSIM. Heureusement, je ne serai plus là. Pour évoquer cette question du rôle social des bibliothèques, donc quatre intervenants dans l'ordre de passage. D'abord Fabrice Chambon, qui en fait est à l'initiative indirecte et sans qu'il le sache de cette session, puisque quand Fabrice était à l'ENSIB, il avait fait un travail remarquable sur le rôle social des bibliothèques, qui est ici, qui est en ligne, là aussi, sur le site de l'école. Fabrice est directeur de la bibliothèque municipale de Montreuil. Montreuil est, pour vous deux, une ville de banlieue parisienne, qui est une ville qui n'est pas socialement très favorisé, en tout cas qui le devient, mais en tout cas bon voilà, donc Fabrice dans un premier temps, ensuite Manuela Barreto Nunes qui a travaillé en bibliothèque publique au Portugal, maintenant en bibliothèque d'université, professeur. Manuela connaît beaucoup de monde dans cette maison, ici. Et donc, on a eu l'occasion de se rencontrer, entre autres, lors des feux, le feu des colloques de Roanne, mais aussi lors de voyages d'études au Portugal. Et ce qui est intéressant dans son propos, me semble-t-il, c'est à la fois la situation des bibliothèques portugaises et ce qu'elles étaient précisément dans les années 95-98. Cette intervention sera faite par le moyen de la technique la plus avancée, n'est-ce pas ? Ça doit être ça. J'espère que ça va marcher. Ensuite, Madame Komlenich, on prononce comme ça ?
Oui.
Donc, il y a bibliothécaire à la Bibliothèque nationale universitaire de la République serbe de Bosnie. C'est intéressant que vous interveniez après, parce que les propos ou l'histoire des deux pays est évidemment complètement différente et que, du coup, le rôle social et éducatif de la bibliothèque n'est pas complètement la même aujourd'hui. Et en conclusion, Annie Dourlan, nous sommes convenus qu'Annie, qui s'intéresse beaucoup à la coopération internationale, fera une espèce de panorama un peu plus général sur cette question au niveau à l'international. Voilà. Donc le seul qui, comme moi, ne parle que sur le papier, c'est Fabrice. Donc tu peux démarrer maintenant, voilà, pour une quinzaine de minutes à peu près.
D'accord. Bonjour à tous. Alors comme Thierry vient de le dire, ce que je vais vous raconter est en partie issu de mes recherches dans le cadre du travail que j'avais effectué à l'ENSIB. Et pour vous éviter la lecture peut-être parfois rébarbative du mémoire, je vais essayer de le résumer rapidement aujourd'hui. Je voudrais dire trois choses principalement pour être court et puis ensuite peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger. La première chose, je voudrais montrer à mon sens comment cette question du rôle social de la bibliothèque et de la volonté de faire en sorte que les services qu'elle propose s'adressent à tous, à l'ensemble de la population, finalement a toujours été au centre des débats professionnels et au centre des moments de l'histoire des bibliothèques où les bibliothèques ont progressé, ont amélioré leur offre en direction de la population, notamment au moment des bibliothèques populaires, je vais en dire deux mots du contexte actuel, et puis éventuellement des quelques pistes qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, où tout le monde s'interroge sur l'évolution du modèle des bibliothèques, etc., etc. Alors deux mots d'histoire pour commencer, je vais essayer de pas être très long là-dessus. Juste pour dire, j'aime beaucoup citer Condorcet, c'est-à-dire que la première fois finalement que les parlementaires, que les élus de la nation se sont penchés sur le rôle des bibliothèques, c'était pendant la Révolution française. Et à l'époque, Condorcet, qui présentait un mémoire pour l'instruction publique, envisageait qu'à côté des écoles qui avaient pour but aujourd'hui, on dirait, de dispenser une formation initiale, il puisse y avoir des bibliothèques partout sur le territoire en charge de la formation continue des citoyens. Là encore, c'est des mots d'aujourd'hui, mais c'était ça l'idée. J'avance très vite, mais moi, il y a un moment sur lequel il me semble important de revenir, c'est le moment des bibliothèques populaires au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a, à cette époque-là, un premier essor des bibliothèques telles qu'on les connaît aujourd'hui, des bibliothèques de lecture publique qui seraient plus réservées uniquement à des clercs ou à des notables locaux, et la volonté de faire en sorte que tous, les ouvriers notamment, puissent bénéficier des services des bibliothèques. Et on a, à cette époque-là, tout un mouvement donc associatif, d'associations d'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement, etc., qui prennent à bras le corps ces questions-là et qui finalement posent deux enjeux essentiels qui me semblent encore les nôtres aujourd'hui. Ils sont dans une démarche donc d'éducation populaire et ils indiquent que l'objectif finalement des bibliothèques est à la fois de former un citoyen éclairé à l'esprit critique, aux horizons les plus larges possibles, à même de prendre part au débat public. Alors évidemment, il y a le contexte de l'époque, c'est-à-dire que 1848, première fois qu'il y a le suffrage universel masculin encore à l'époque, et puis qui est porté au pouvoir, Napoléon Bonaparte, donc dictateur, je ne sais pas, mais en tout cas un président autoritaire qui fera un coup d'État derrière. Et donc, il y a la volonté d'éduquer au suffrage universel et de former des citoyens éclairés. Premier objectif. Deuxième objectif qui est mis en avant à l'époque, c'est la volonté de former une main-d'œuvre qualifiée. c'est-à-dire qu'on est quand même, il y a quand même cet objectif-là. La plupart de ces bibliothèques sont le fait de notables, c'est-à-dire de la bourgeoisie éclairée de l'époque et très peu du mouvement ouvrier de l'époque. Il y a quand même la volonté de maintenir un certain ordre social et en formant une main-d'œuvre qualifiée pour augmenter la productivité des usines ou des manufactures qui existent à l'époque. Mais aujourd'hui, cet objectif de permettre à tous d'acquérir le plus haut niveau de qualification continue d'être, à mon avis, très important dans la société dans laquelle on vit, de plus en plus important. On parle de société de la connaissance, la stratégie de Lisbonne, tout le monde, les nouveaux emplois qui vont être créés seront des emplois à haut niveau de qualification. Et donc, il y a la volonté, il y a l'objectif, à mon avis, de la société de permettre à tous d'acquérir le maximum de qualifications. Bien sûr, il y a le système scolaire, mais les bibliothèques ont sans doute un rôle à jouer de ce point de vue-là. C'était déjà, ces enjeux-là étaient déjà posés à l'époque. Évidemment, avec ce contexte d'une volonté aussi de maintenir l'ordre social. C'est-à-dire qu'à la même période, il y a Haussmann. Et d'un côté, on veut former des citoyens éclairés ou améliorer l'hygiène. Et puis de l'autre côté, donc il faut créer des grands boulevards. Et puis de l'autre côté, il faut aussi permettre à la troupe de passer et d'essayer et de mater les révolutions en cours, 1830, 1848, 1870. Et la volonté de... Bon, voilà, ça, c'est l'époque. Aujourd'hui, j'espère qu'on n'en est plus là. Mais tout de même, il reste des besoins en termes d'acquisition de qualifications qui sont extrêmement importants. Et finalement, tout au long de l'histoire, on peut rappeler, alors, après la Première Guerre mondiale, les premières sections jeunesse, les premiers bibliobus, le pays est en reconstruction, pareil, il s'agit toujours de porter ce double objectif auprès du plus grand nombre et de faire en sorte que ces services-là soient proposés encore une fois à tous. Pareil, après la Seconde Guerre mondiale, tout le débat dans l'ABF, avec la section de la lecture publique, Geoffre Dumasdier, la culture pour tous, la Ligue de l'enseignement, là encore, il y a toujours eu au cœur des débats professionnels, cette question du rôle social des bibliothèques, et c'est, à mon avis, ce qui a permis à chaque fois de faire avancer les bibliothèques. Les bibliothèques populaires, c'est les premières à faire du prêt, à ouvrir le soir à la fin de la journée de l'ouvrier, et le dimanche matin pour éviter qu'ils aillent à la messe aussi. Dans les années 70, le modèle du libre accès. Et donc la volonté de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier les collections. On se souvient d'Annie Ernaux, par exemple, qui raconte son enfance et qui dit être allée à la bibliothèque avec son père et avoir être restée sans voix quand le bibliothécaire lui a demandé « Vous voulez un livre ? Très bien, mais lequel ?» Elle n'avait pas pensé à cette question. C'est-à-dire qu'il fallait demander le livre et le bibliothécaire l'apportait. Donc voilà, modèle du libre accès. Aujourd'hui, pareil, on s'interroge, quelle bibliothèque pour demain ? Cette question sociale devrait figurer et figure la preuve, le débat qu'on a aujourd'hui est au cœur des préoccupations professionnelles de plusieurs manières et dans un contexte dont je voudrais dire deux mots à l'instant. Évidemment, il y a un contexte de crise économique, je passe là-dessus, il y a un contexte de crise des bibliothèques, on peut le dire comme ça, même si ça mérite sans doute d'être nuancé, il y a quand même une baisse de la fréquentation, une baisse des prêts, et donc il faut sans doute réinterroger le modèle précisément du libre accès qui a été construit dans les années 70-80. Et puis une crise, alors c'est le thème du congrès, mais une crise quand même de la citoyenneté, une abstention très forte, le vote d'extrême droite qui est assez important, l'importance aussi pour les bibliothèques sans doute de jouer un rôle de ce point de vue-là. Alors maintenant, une fois qu'on a décrit en deux mots ce contexte de crise économique, sociale, citoyenne, et les difficultés pour les bibliothèques de se repositionner aujourd'hui, juste une chose quand même pour que tout le monde l'ait en tête, baisse de la fréquentation, mais aussi dans les dernières enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, le constat assez inquiétant que les écarts entre la population la plus diplômée, la part de la population la plus diplômée et la part de la population qui l'est le moins, les écarts de fréquentation se creusent. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, en termes de rôle social des bibliothèques, on a quand même un certain nombre de questions à se poser. Manifestement, on ne parvient plus, bien sûr on n'est pas seul au monde, mais la société dans son ensemble, et notamment les bibliothèques, parvient de moins en moins à réduire les inégalités d'accès au savoir et l'accès à la culture, et parmi l'ensemble de ces acteurs, les bibliothèques sont également concernées par cette incapacité relative à jouer leur rôle à plein. Si tant est que ça représente une évolution par rapport aux pratiques professionnelles précédentes, j'en suis pas si sûr que ça. Il me semble que sur tous les sujets qu'on peut qualifier de sociaux, sur toutes ces questions sociales, on ne pourra plus, les bibliothèques ne pourront plus travailler seules. Tout se fera dans un cadre partenarial. C'est une des grandes leçons des 20 ou 30 dernières années. Encore une fois, je pense que si on remontait un peu plus loin, on se rendrait compte qu'il y a toujours eu finalement ces démarches partenariales. Mais si on veut aller par exemple sur le terrain de l'accueil des migrants ou dans les quartiers politiques de la ville, c'est déjà le cas dans vos pratiques professionnelles sans doute quand vous êtes dans ces lieux-là, mais on ne le fait que très rarement tout seul. On travaille avec les associations d'aide aux migrants, on travaille avec les antennes de quartier, on travaille avec les missions locales, Pôle emploi, etc., sur tout un certain nombre de questions. Donc il n'est pas question, parfois ça peut nous interroger en termes de pratiques et de formation professionnelle. La rencontre est modérée par Thierry Makov de l'ENSIB. Donc en termes de formation professionnelle, il y a aussi là des enjeux très lourds de faire en sorte de favoriser ces partenariats en faisant en sorte que dans l'ensemble de la formation des bibliothécaires, puissent être invités des représentants des politiques de la ville, des politiques éducatives, du monde associatif, de l'éducation populaire, etc., pour faciliter la diffusion de ces pratiques qui existent, mais qui mériteraient sans doute d'être généralisées. Dans les années, à partir du début des années 80, sans doute, avec le doublement du budget du ministère de la Culture, on a assisté au développement de ces initiatives à caractère, entre guillemets, social, c'est-à-dire qu'avec les prisons, les hôpitaux, avec les associations d'éducation populaire comme ATD Carmonde, ce genre de structures, et se sont progressivement diffusées dans les pratiques professionnelles des partenariats qui avaient pour vocation d'élargir les publics des bibliothèques et de toucher en particulier ceux qui étaient les plus éloignés de la lecture ou de la culture. C'est évidemment qu'on fait les constats opérés par l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, un objectif qui demeure et qui est de plus en plus criant. Et ces modalités partenariales de l'action des bibliothèques sont sans doute une des principales pistes sur lesquelles on doit plancher pour essayer d'améliorer notre positionnement dans ce domaine-là. Il n'est pas question pour les bibliothèques de se transformer en assistante sociale ou en conseiller Pôle emploi. Pour autant, il est question de maîtriser un minimum le monde, l'environnement des champs professionnels avec lesquels on travaille pour comprendre la manière dont ils fonctionnent et pour se positionner le plus efficacement pour être utile aux côtés des professionnels du champ concerné. Il y a eu une première traduction formalisée de ces partenariats au travers des contrats ville-lecture à la fin des années 90. Malheureusement, ils ont périclité, enfin, ils n'ont pas été prolongés. Pour autant, dans le cadre du travail d'études qui a été cité, j'ai eu l'occasion d'observer que dans les villes où des contrats ville-lecture avaient été mis en place, les pratiques professionnelles qui avaient été développées ont été plus largement pérennisées que dans les autres. C'est donc la preuve, à mon sens, qu'un minimum de formalisation des partenariats et des actions qui sont impulsées sont sans doute un des moyens de faire en sorte que les pratiques perdurent au-delà du changement de tel ou tel interlocuteur, aussi bien à la bibliothèque que parmi les partenaires. Donc ça aussi, cadre partenarial, mais formalisation sans doute nécessaire, de manière à ancrer durablement les questions sociales dans le monde des bibliothèques. Je voudrais balayer peut-être quelques champs qui me semblent particulièrement importants. Encore une fois, on est loin de partir de rien, et je sais que dans de très nombreuses bibliothèques, un grand nombre de choses se sont mises en place de cette manière-là, parfois avec des moyens limités d'ailleurs, puisque l'une des différences quand même par rapport aux époques que j'ai citées à la fin des années 90, aux années 80 et à aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus dur de capter des financements pour aller sur ces terrains-là qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a les contrats territoire ville-lecture, mais ils sont très peu nombreux. Bien sûr, les politiques de la ville qui existent, mais dont le volet culturel est très faiblement dotés en moyens financiers. Les contrats éducatifs locaux, qui, pareil, dans les années 90, ont permis d'amener des crédits financiers dans la mise en place de politiques culturelles, éducatives principalement, mais au-delà culturelles, avec tout ce qui concerne le périscolaire. Aujourd'hui, les contrats éducatifs locaux ne sont plus synonymes de manne financière. Dans la réforme des rythmes scolaires, il y aura aussi, dans toutes les zones éducatives prioritaires, un certain nombre de chantiers à lancer malheureusement, devront l'être sans forcément des moyens supplémentaires. Donc il y a cette contrainte des moyens pour agir, mais il existe tout de même des dispositifs dans lesquels s'insérer et aux côtés desquels on peut se retrouver avec encore une fois des professionnels d'autres champs qui abordent cette question sociale de manière à améliorer l'action qui est la nôtre. Je voudrais juste donner un exemple puisqu'on me dit que les interventions sont très courtes. Un exemple à Montreuil pour vous montrer peut-être les erreurs à ne pas faire. Nous-mêmes étions animés d'une volonté farouche d'avancer sur cette question sociale. Alors évidemment, on y reviendra du coup dans le débat, mais sur la formation tout au long de la vie, sur l'insertion professionnelle, et puis notamment sur l'accueil des migrants, puisque Montreuil est une ville, effectivement, dont une partie du territoire est en voie de gentrification, avec l'arrivée de populations plus aisées qu'auparavant, plus diplômées, mais il y a aussi des territoires très en difficulté sur la ville. Et Montreuil est une ville monde, 80 langues parlées, une forte immigration, etc. Donc on a mis en place des actions, un certain nombre d'actions en direction des migrants, ateliers de conversation, l'accueil des classes CLA, des classes d'insertion, etc. etc. Je ne détaille pas. Et on a tenté de travailler dans le cadre du CUCS, du contrat urbain de cohésion sociale. Pour autant, d'autres associations avec d'aide aux migrants déposaient également des demandes d'aide dans le cadre du CUCS et avaient une action parallèle à la nôtre, nous n'étions pas allés les voir. On a beau dire qu'il faut travailler dans un cadre partenarial, on oublie parfois de le faire soi-même, et donc nous n'étions pas allés les voir, du moins pas toutes et pas les bonnes, et du coup notre projet a été retoqué et on n'a pas pu mettre en place les actions qu'on aurait souhaité mener parce qu'on n'a pas au départ fait les bonnes démarches auprès des bons acteurs et qu'on a voulu aller sur un terrain qui n'était pas le nôtre sans se concerter avec encore une fois les professionnels de la question. Du coup nous avons du tout reprendre à zéro et nous avons monté les projets que nous menons actuellement en direction des publics migrants à Montreuil en lien avec ces acteurs là en les modifiant à leur contact, et aujourd'hui ça fonctionne évidemment bien. Ça fonctionne d'une part, ça n'existait pas auparavant, et ça fonctionne bien d'autant mieux que nous travaillons de concert et qu'on essaie d'être complémentaires les uns les autres dans notre intervention. Voilà, juste un petit exemple en guise d'illustration pour indiquer à quel point le fait de formaliser ce cadre partenarial et de, même sans formalisation, de vraiment de travailler avec d'autres sur ces enjeux-là est source d'efficacité et de réussite en la matière. Ensuite, évidemment, on ne parviendra pas à résoudre l'ensemble des problèmes sociaux nous-mêmes. Il y a des questions de politique économique et sociale, urbaine, éducative, qui nous dépassent très largement. Pour autant, dans le cadre des évolutions professionnelles des bibliothèques en ce moment, il me semble que le fait de s'approprier ces thématiques-là et d'aller sur ce terrain-là aux côtés des acteurs des champs concernés est absolument prioritaire. Chacun sa manière, en fonction du contexte urbain qui est le nôtre et des conditions d'exercice de notre activité qui sont les nôtres. Évidemment, on ne travaille pas de la même manière à Montreuil ou dans l'agglomération de pleine commune autour de Saint-Denis qu'on ne le fait sans doute dans d'autres villes plus rurales, etc. etc. Voilà, peut-être qu'on reviendra sur les ruches ou d'autres initiatives qui peuvent être mises en lumière et qui peuvent être source d'idées et d'innovations pour nous dans l'avenir. Mais je m'arrête là pour cette première intervention puisqu'on me dit de le faire.
J'ai une question pour vous deux. En fait, revendiquer le rôle social des bibliothèques, est-ce que ce n'est pas affirmer, réaffirmer que la bibliothèque est d'abord un objet, un outil politique? C'est-à-dire que les bibliothécaires, au bon sens du terme, font un travail politique auprès de la population. Je me souviens qu'en 2008 ou 2009, congrès de la DBGV à Strasbourg, Ivalix avait à ce moment-là fait une définition de l'usine à gaz qui était assez remarquable. Jean-Luc Gauthier-Jantès nous dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, la crise arrive, les bibliothèques vont de nouveau se remplir ». Est-ce que ce n'est pas justement là la question? La question, c'est la bibliothèque est un objet politique et qu'il faut la revendiquer comme telle. Alors, Fabrice, 35 secondes, Emmanuel.
Moi, je pense que oui, bien sûr. Par exemple, toutes les pratiques qui avaient été mises en place par les bibliothèques d'éducation populaire au XIXe siècle, elles se sont transcrites dans les bibliothèques municipales à mesure que la Troisième République s'est mise en place et que ceux qui avaient impulsé de manière associative ces bibliothèques et qui parfois s'en occupaient très concrètement sont devenus eux-mêmes élus locaux. Pareil dans les années 70, tous les débats dans l'éducation populaire qui existent dans le monde de l'éducation populaire dans les années 60-70, ils trouvent une transcription notamment en matière de lecture publique quand en 77 la gauche gagne les élections et que du coup se mettent. Alors, il ne s'agit pas pour moi d'en rentrer dans les débats droite-gauche, mais tout de même, il y a eu une vague de construction de médiathèques et un essor de la lecture publique dans ces années-là. Donc évidemment, il y a une dimension politique dans les bibliothèques et y compris dans notre métier, si on choisit d'aller sur les questions sociales et si tous on est animés par cette volonté que les bibliothèques soient accessibles à l'ensemble des citoyens et si tous on cherche des solutions pour aller dans cette direction-là, le fait même d'indiquer que c'est ça la bonne direction, que c'est cette direction qui est la bonne, me semble relever d'une démarche politique évidente. Donc oui, dans un sens, il y a une dimension militante à l'action des bibliothèques, si c'était ça la question.
Je ne peux pas faire le contradictoire, c'est une question politique évidemment. Et les bibliothèques publiques ne sont pas l'exclusif des démocraties, pas aussi. Hein. Elles existent même en dictature. Et encore, ce que les bibliothécaires font, c'est toujours des décisions politiques aussi. Alors, tu veux que je continue? Je vais pas.
Tu sais où tu veux que je vienne? Non, ça va.
Je sais.
Je sais mieux que toi. Oui. Quelle impertinente. Elle est impertinente.
J'ai perdu 2 minutes avec ce voyage. Bonjour, je ne vois rien. Merci beaucoup de m'avoir invité pour venir à Lyon. C'est la 4e fois que je suis ici à Lyon. J'ai ici beaucoup d'amis. Je remercie à l'ABF, à l'organisation, surtout à Christian Massot et à Thierry Ermakoff de m'avoir invité. La moitié de ce que je voulais dire comme introduction à mon intervention a été déjà dite par Fabrice, donc merci Fabrice. parce que je voudrais commencer enfin par situer, contextualiser les bibliothèques publiques portugaises dans cette question du rôle social des bibliothèques. Et je commençais pour faire enfin une petite histoire des bibliothèques publiques comme on les comprend aujourd'hui. Durant le XXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont ces valeurs de la citoyenneté informée dont on a déjà parlé. Elles sont des agents de la société démocratique et pas seulement. Elles sont une partie de la sphère publique dans le sein habermasien, des arènes qui sont indépendantes des gouvernements, des pouvoirs, même si elles sont financées par eux. Et ça, c'est un autre problème dont on reviendra à la fin de cette intervention. Elles veulent être des organisations neutrales, universalistes, ouvertes à tous. Il y a l'idée imaginaire d'une bibliothèque qui sert tout le monde, quoi que ce soit ses capacités, ses besoins, l'espace de tous. C'est une chose qu'on voudrait qu'existait comme bibliothèque publique. Des années 60, la bibliothèque au pays occidental est devenue comme un aspect de la lutte contre l'exclusion sociale et une façon de défendre le multiculturalisme des sociétés. Pendant les années 80-90, elle s'est dédiée un peu plus aux communautés plus pauvres, aux exclus, et tout ça dans le discours et pas tellement dans la pratique. Et aussi, il y a eu une évolution du rôle des bibliothécaires, du bibliothécaire traditionnel qui faisait des questions techniques le centre de sa profession, au bibliothécaire qui, théoriquement, se conçoit comme quelqu'un qui intervient dans les questions sociales. Et quand on a déjà beaucoup parlé ici ce matin, ou cet après-midi, de la bibliothèque comme lieu de rencontre, et le premier aspect du rôle social de la bibliothèque publique, c'est celui-là de lieu de rencontre. Il est très, très, très réfléchi par la IFLA dans le manifeste sur les bibliothèques publiques, dans ses directrices des bibliothèques publiques, un espace public, un lieu de rencontre. Beaucoup d'investigations nous disent tous la même chose. un espace. Les gens disent que la bibliothèque publique est un espace de trêve, un refuge, une zone neutre, une zone rassurante. C'est la place publique. C'est un, aussi, maintenant, pendant les dernières années, un méta-lieu de rencontre et aussi un lieu de rencontre qui est simultanément réel et virtuel. Ça nous fait arriver à que, à la bibliothèque publique, on peut avoir des rencontres de haute et aussi de basse intensité, ce qui nous amène à la question de l'inclusion sociale et du capital social, et rencontres simultanées de troisième niveau, comme on a dit déjà, mais aussi de premier et deuxième, évidemment. Alors, c'est là, c'est une question de la sphère publique. Pourtant, alors, en tant que lieu de rencontre, la bibliothèque publique nous donne des individus avec plus de capital social, augmente les niveaux de capital social et contribue au développement de relations positives entre les citoyens, indépendamment de ces différences, puisque c'est un lieu de rencontre de basse intensité et un troisième lieu. Même les activités basiques de que parlait Thierry il y a un moment, les heures d'ouverture, les collections, l'existence même de la bibliothèque publique, la lecture, le prêt, la recherche d'informations, l'espace d'études, nous donnent du capital culturel, l'accès à la connaissance et donc du capital social. Elle augmente le niveau de confiance dans les institutions à travers les rencontres. Le capital social est parti de la sphère publique, donc la bibliothèque publique est partie de la sphère publique. Ici, je faisais une petite réflexion sur le rôle de la bibliothèque publique dans l'espace virtuel. Les dernières investigations au Portugal nous disent que quoique on utilise la technologie, quoi qu'on est présent dans les réseaux virtuels, ça n'est pas encore quelque chose de bien compris ou de bien utilisé par les bibliothèques publiques. Donc, comme lieu de rencontre virtuel, comme méta-lieu de rencontre, la bibliothèque publique est plus utilisée c'est une question d'usage, par les utilisateurs que par les bibliothécaires. C'est plus une attitude des utilisateurs que des bibliothécaires. Alors, le problème, et je venais de dire ça avant, c'est que les bibliothèques publiques, elles existent dans différents types de régimes politiques, pas seulement dans les démocraties. Depuis l'Empire romain, les bibliothèques publiques sont utilisées comme forme de domination aussi, d'imposition d'une langue, des valeurs, des coutumes, des habitudes. Dans l'histoire, les bibliothèques publiques continuent à servir des États dictatoriaux. Et même en démocratie, et ça c'est notre problème, c'est que la bibliothèque reflète plein de fois, elle est bureaucratique, elle reflète les valeurs, les intérêts d'une élite, du mainstream, comme disent les Anglais, d'une élite qui détient du capital social et qui génère du capital social pour soi-même. Donc, en plein de cas, les bibliothèques, même quand elles veulent promouvoir l'inclusion sociale, le capital social, travailler avec les moins favorisés, elles continuent à travailler principalement avec une classe moyenne qui ne se mélange pas avec les autres. Et la plupart des études sociologiques sur la fréquence, l'usage des bibliothèques publiques nous démontrent que ça continue à être comme ça. Les collections, elles sont les collections du mainstream aussi. Alors, ça signifie que ce n'est pas par définition que la bibliothèque publique contribue à la démocratie. Et en plein de cas, elle est dans la manutention d'élites et aussi de travailleurs conformés et disciplinés. Donc, le travail social de la bibliothèque publique dépend des bibliothécaires, dépend des élus, dépend de l'investissement qu'on fait dans la sphère publique. Donc, la bibliothèque publique peut générer du capital social, aussi du capital économique. Une étude très récente du réseau des bibliothèques municipales de Barcelone nous démontre que par chaque euro investi dans les bibliothèques, on a un revenu de 2 euros. Et ce sera très intéressant d'écouter les collègues expliquer comment ils sont arrivés à cette valorisation économique d'un service qui est un service, en tout cas un service culturel et social, et pas mesurable, facilement mesurable. Alors, on va appliquer ces principes à la réalité d'un pays, c'est le Portugal, qui a des bibliothèques publiques dans le sein, qu'on les comprend maintenant, pas depuis 1870, comme ici, pas depuis 1911, mais seulement depuis la fin des années 80. Néanmoins, il y a eu des lois très intéressantes au final du 19e siècle, après, immédiatement après la Première République, qui voulait créer des réseaux de bibliothèques publiques ouvertes pour tous. Ces lois n'ont pas eu beaucoup de conséquences pratiques, mais en tout cas, on s'est créé beaucoup de bibliothèques fixes et mobiles. Après, on a eu ceux qui ont un peu plus de 50 ans savent bien que le Portugal a subi une dictature le long de 50 ans jusqu'à 1974. Les plus jeunes ne doivent pas le savoir, ni ont pourquoi le savoir, mais c'était ça. Cette dictature vient de l'année 1926. En 1927, il a été promulgué une loi qui disait que les bibliothèques ne devaient posséder aucun livre, journal ou pamphlet avec des doctrines immoraux et contraires à la sécurité de l'État. Quelques ans après la promulgation de la nouvelle constitution, ont été créées des bibliothèques populaires comme stratégie d'appui au combat aux hauts niveaux d'analphabétisme du pays. Idéalement, il y avait une idée de faire un combat à l'analphabétisme qui n'a pas été fait. Notre dictateur Salazar, il disait qu'un peuple ignorant, c'est un peuple obéissant. Il le croyait jusqu'à peu avant la révolution des ayés, ce qu'on appelle au Portugal le 25 avril. On n'avait que 4 ans de scolarité obligatoire. Et là, il y avait un grand pourcentage de gens complètement analphabètes dans mon pays. Alors, pendant la dictature, comme il n'y avait pas d'État préoccupé avec les questions culturelles et éducatives, une fondation créée par un Arménien qui s'est installé au Portugal, c'était un réfugié de la Deuxième Guerre mondiale, mais un millionnaire, a créé une fondation, la Fondation Calouste Gulbenkian, qui a décidé en 1958 de créer un réseau de bibliothèques mobiles. Alors, elle s'est substituée à l'État dans la promotion des bibliothèques publiques au Portugal. Ces bibliothèques ont atteint les coins les plus lointains du pays. Et beaucoup de personnes ont dû avoir du contact avec le livre et la lecture à cause de la Fondation Gulbenkian. Et il n'y avait presque pas... cette bibliothèque, c'était des bibliothèques modernes, avec des collections bien pensées pour les populations, bien pensées pour les différents niveaux d'âge, avec du prêt, avec du libre accès, etc. Après, on a eu la révolution des ayés, mais les bibliothèques, la lecture publique n'était pas un problème auquel pensaient beaucoup nos politiques, nos gouvernements. Ont été créées quelques 20 nouvelles bibliothèques, mais suivant des modèles dépassés, ils continuaient à être des coins, des petits coins dans les édifices des mairies, sans libre accès, avec des étagères fermées, sans prêt, sans activité d'animation. Et c'était précisément un Français, toujours présent, Jean Tabé, qui a été un grand ami de Portugal et des bibliothèques portugaises, qui a dirigé un séminaire en 1983 sur la lecture publique et d'où a résulté un manifeste sur la lecture publique au Portugal. À partir de ce manifeste, alors la secrétaire d'État de la Culture a décidé de nommer un groupe de travail pour faire l'étude qui lancerait les bases de l'actuel réseau de bibliothèques publiques. À ce moment-là, il n'y avait que 90 bibliothèques municipales au Portugal. De celles-ci, seulement la moitié répondait à quelques-uns, pas toutes, des principes du manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique. Alors, on a eu le premier concours pour les bibliothèques publiques municipales en 1987, et à ce moment-là, on a presque deux tiers de municipalités couvertes avec ces bibliothèques publiques. Pendant les premières 10 années, le modèle des bibliothèques publiques portugaises a suivi le modèle français. Comment s'est fait ce réseau ? À travers des contrats-programmes entre l'État, à travers le ministère de la Culture et les municipalités, avec des conditions relatives à la dimension et caractéristiques des édifices, l'organisation des espaces et des services, les caractéristiques, les dimensions des collections, le nombre et les qualifications, évidemment, des ressources humaines. Pour le financement, l'État assurait 50% des dépenses avec la construction du bâtiment, le mobilier, l'équipement, l'informatisation et aussi les collections, et les municipalités, les autres 50%. De ce programme ont résulté de très très belles bibliothèques, en des bâtiments construits par des grands architectes portugais comme César Vieira. Ça, c'est la bibliothèque municipale de Viana do Castelo, au nord du pays, au littoral. Ça, c'est un aspect de l'intérieur. La bibliothèque Almeida Garrett, que quelques-uns de vous avaient déjà visité, à Porto. Ça, c'est un aspect de l'intérieur aussi. Pas tous les édifices sont nouveaux. On a essayé, à travers ce réseau aussi, de stimuler la récupération d'édifices antiques du patrimoine des municipalités. Alors, on a ici deux exemples, un au sud littoral et autre au centre intérieur. Alors, pendant les premiers 15 ans, le réseau de bibliothèques publiques a été une vraie révolution culturelle dans le pays. Ça veut dire quoi que je ne vois pas au loin? 2 minutes. OK. Il a changé, je veux dire une chose positive, après je vais dire des choses négatives. Il a changé le paysage culturel de beaucoup de communes et a apporté plein de nouveautés à des endroits jusqu'alors abandonnés. Par les bibliothèques publiques de mon pays passent pas seulement les livres, mais aussi le cinéma, mais aussi le théâtre, mais aussi les groupes de lecture, mais aussi le travail avec les écoles, avec les plus âgés, avec les plus petits. Elles sont vraiment là où elles travaillent, là où elles sont une partie de la sphère publique. Elles sont vraiment un élément de changement avec un rôle social qui fait augmenter le capital social des citoyens. Ces bibliothèques ont été un modèle dans le panorama international des bibliothèques publiques pendant presque 20 ans. À partir de la fin du commencement des années 2000, ça a commencé à changer. Notre modèle de bibliothèque nous dit que l'État aide à payer, financer la construction des bibliothèques, ses collections, la formation du personnel, jusqu'à l'inauguration. À partir de ça, c'est les mairies qui sont responsables pour les bibliothèques. Alors, on n'a pas une loi de bibliothèque? on n'a pas de l'inspection pour les bibliothèques. À partir de ce moment-là, les mairies peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ça dépend beaucoup des élus. Ça dépend beaucoup de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils comprennent sur les bibliothèques publiques. Et ça a fini pour réfléchir les inégalités du pays lui-même, entre le littoral et l'intérieur, entre les grandes villes et les petites villes. Donc, à ce moment-là, on a une très, très grande inégalité dans les bibliothèques publiques. Quelques-unes ont développé ces collections, ces services, ces heures d'ouverture. Les autres sont presque mortes. Et quand je dis presque mortes, je veux dire presque mortes. Abandonnées et même sans bibliothécaires. Je vous demande un peu plus de temps seulement pour renseigner quelques numéros. C'est pendant les 3-4 dernières années, c'est la crise économique, évidemment. C'est l'austérité et c'est une violence sur un pays. J'espère que vous ne la souffrirez pas, parce que c'est une extrême violence sur un pays. Mais avant ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour un investissement qui, en 2011, avait atteint les 200 millions d'euros dans tout le réseau, on a appuyé de 161 bibliothèques publiques. On a un fonctionnement sans 94, avec 49 bibliothèques itinérantes qui, comme vous savez, sont aussi une partie importante du rôle social des bibliothèques. Nous n'avons que 0,8 livres par habitant au Portugal, et ça est un reflet aussi de l'inégalité, parce que je vous donne des numéros en gros, mais il y a des bibliothèques avec beaucoup de livres et l'autre avec des collections très réduites. Pas presque des livres numériques dans les bibliothèques, ce sont des signes. Heure d'ouverture au public, Thierry m'avait demandé ça, 44 heures par semaine en moyenne. Je m'en vais. Alors, on face à un problème. On a moins de 20% d'utilisateurs inscrits dans les bibliothèques publiques, environ 5% dans toute la population portugaise d'utilisateurs actifs en 2011. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a eu presque aucune évolution. La crise, demandait Thierry, est-ce qu'elle augmente l'utilisation des bibliothèques? Au Portugal, pendant ces trois dernières années, rien ne s'est passé. Alors, on a un problème. Merci. En tout cas, comme disait Ranganathan, la bibliothèque est un organisme en construction. On va voir qu'est-ce qui se passe.
À vous, Madame Koménik. Va nous parler des la Bibliothèque nationale universitaire de Bosnie. Allez-y. Rectifiez mes propos s'ils ne sont pas justes.
C'est bon. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'organisateur pour l'invitation. C'est pour moi un grand plaisir et grande expérience. Je m'appelle Željka Komlenić, je viens de la Bosnie, de la République de Serbie, de la ville qui s'appelle Banja Luka. Dans le cas, si il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette région, je vais montrer quelques photos très vite. Mais vous pouvez voir. Exemple, où se trouve ça? Quelques photos. C'est la Bibliothèque nationale et universitaire à Banja Luka. En Bosnie, existe deux bibliothèques avec la fonction nationale. Et c'est la Bibliothèque nationale et universitaire Bosnie-Herzégovine à Sarajevo et Bibliothèque nationale et universitaire de la République de Serbie. C'est le bâtiment un peu vieux. Ce n'est pas extraordinaire comme en Portugal. Municipal bibliothèque. Donc, ce sont deux bibliothèques nationales avec la même tâche et la même fonction. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe en Bosnie pendant la guerre et le résultat pour les bibliothèques, c'était le 30% des bibliothèques est détruit pendant la guerre. Et on a fait reconstruction des bibliothèques, donné une nouvelle loi pour la bibliothèque, nouvelle méthode de financement, financement budgétaire pour toutes les bibliothèques dans une entité qui s'appelle République Serbe. La loi, une autre entité, c'est un peu différent, mais c'est une bonne chose d'avoir le financement de niveau République pour toutes les bibliothèques. C'est très rarement une situation et malheureusement, chez nous aussi, on va se changer cette situation et financement passe au niveau local. Le rôle social des bibliothèques, c'est une tâche essentielle et traditionnelle. Pour toutes les bibliothèques, pour les bibliothèques locales et municipales, c'est la première tâche. J'ai accenté trois choses comme c'est visible. C'est identification des besoins d'utilisateurs, c'est la première tâche. Par exemple, notre préoccupation, c'est quelque chose comme résultat après identification des besoins de tous les utilisateurs. Identification des problèmes sociaux. Quelque chose de très important parce que les problèmes sociaux se changent et on doit faire identification. Quel est le problème actuel et comportement de bibliothèque et leur service adapté de ce problème social. Ensuite, développement d'une la meilleure possible et nouvelle offre de services qui répond aux besoins des utilisateurs. Il y a quelques risques. Les risques et les problèmes suivants ont été identifiés comme, par exemple, le financement des bibliothèques. C'est le problème pour toutes les bibliothèques dans le monde, je pense. Et la mise en disposition des ressources online comme Google nuit à la visibilité et la plus-value des bibliothèques. Ensuite, le nombre d'utilisateurs, c'est indicatif et en diminution car il est de plus en plus difficile de faire partager la valeur ajoutée d'une bibliothèque. Ensuite, la bibliothèque ne peut pas s'adapter assez rapidement aux changements technologiques et à l'évolution des besoins utilisateurs. Et ce sont les problèmes et les risques, mais le rôle social de la bibliothèque en général, c'est toujours présent et très important. Comment les bibliothèques peuvent-elles réussir à proposer une offre de services répondant aux besoins des utilisateurs? Et c'est malgré des ressources financières qui sont limitées. Par exemple, le rôle social dans notre bibliothèque, c'est déroule comme dans trois segments. Identification des besoins des utilisateurs, par exemple, identification des utilisateurs qui, potentiels ou possibles. Nous avons fait un modèle qui est fait selon CDU ou DDK ici en France, DUEVA, classification de DUI. Par exemple, chaque discipline de 0 jusqu'à 9 s'est identifiée comme le groupe cible et ensuite, pour tous les domaines, il est formé, il existe la personne dans la bibliothèque comme l'informateur pour ce domaine et il s'occupe de sondages, de besoins des utilisateurs et préparation. Pour préparation des offres qui est pour ce groupe et comme ça. Et il y a 10 personnes qui s'occupent de ça dans la bibliothèque qui est petite. C'est possible, par exemple, de faire parlez-moi une action qui est consacrée à l'utilisateur dans le groupe qui est séparément et n'est pas beaucoup identifié comme l'utilisateur dans la bibliothèque. Ensuite, identification des problèmes principaux de la société. Par exemple, l'intégration européenne dans le pays émergent, Éducation, inclusion des personnes avec les besoins spécifiques est comme ça. Ensuite, la recherche permanente des besoins des utilisateurs. Ce sont trois principes qui parlent de la rôle social. Et je vais vous expliquer un exemple. Par exemple, l'intégration européenne, comment ça se passe en Bosnie. J'ai écrit un article qui est consacré à ce problème. Par exemple, préoccupation de la bibliothèque dans le contexte de la candidature de la Bosnie et Herzégovine à l'entrée dans l'Union européenne. La bibliothèque, fidèle à ses missions, est amenée à jouer un rôle premier plan pour informer décideurs et citoyens sur le changement qui entiendra l'intégration européenne. Des obligations, un devoir, une chance pour la bibliothèque, etc. Dans ce contexte, la reconnaissance des bibliothèques publiques comme des lieux où les citoyens peuvent chercher des réponses pour toutes les questions consacrées de l'adhésion de notre pays à l'Union européenne revêt une importance particulière, qu'il s'agisse d'un programme général national ou programme détaillé lié à la communauté locale aux universités, aux écoles ou à toutes sortes d'institutions et d'organisations à tous ces niveaux. La société doit pouvoir connaître le changement futur qui implique le processus de l'adhésion à l'Union européenne. Dans le propre intérêt, les bibliothèques peuvent prendre une position de leader dans la fourniture d'informations à leurs usagers, comme à la communauté en général et devant la vitrine de l'information sur l'intégration européenne et toutes les questions concernant l'Union européenne. Quelles sont les tâches, quelles tâches concrètes ce rôle de la bibliothèque implique-t-elle? Il y a beaucoup de tâches et d'obligations. Bibliothèque, d'abord, un travail supplément de formation des bibliothèques de tous les établissements est nécessaire pour qu'ils soient capables de donner des informations sur l'UE, organisation de conférences, colloques, ateliers sur le sujet, en s'appuyant sur les bons exemples à l'étranger. Ensuite, on pourrait créer une sorte d'Eurostat ou une salle de lecture européenne dans chaque bibliothèque. L'utilisateur serait informé d'une manière adéquate sur l'Union européenne et représente ce qui comprend l'intégration européenne, les conséquences de ce processus, etc. La population est si peu informée de tout cela. Sur le chemin de l'intégration, chaque domaine professionnel et scientifique, chaque secteur économique et social exige un examen profond du monde de fonctionnement, de transformation, de la standardisation et son adaptation aux lois européennes. Pour toutes ces raisons, les utilisateurs de ce type d'informations sont de plus en plus nombreuses. Une classe de données, le salle de lecture européen ou Eurostat proposerait des collections strictement organisées et une ambiance favorable pour chaque utilisateur recevoir facilement et rapidement des informations, le domaine qui s'intéresse en rapport avec lui. Qu'est-ce que était obligé faire dans ce chemin, c'était définir objectif, faire la groupe, définir la groupe cible de cette stratégie, ensuite la question de financement de la stratégie, et monitoring et évaluation. Dans le processus de l'adhésion, tout d'abord, les bibliothèques doivent être elles-mêmes bien informées des changements et transformations qu'elles doivent subir pour être aptées à fournir un grand nombre d'informations concernant les UE à leurs utilisateurs. Le rôle des bibliothèques dans le processus d'intégration souhaitant l'harmonisation des standards de fonctionnement bibliothèque et standards européens, ensuite la mise en accord de la législation des bibliothèques avec la législation État membre, l'intégration des bibliothèques dans le système informatique des bibliothèques est au consortium, la formation continue, c'est-à-dire l'éducation des bibliothécaires pour travailler dans les conditions contemporaines, et coopération internationale et régionale. Quels sont les sujets qui intéressent les citoyennes et les usagers dans le processus d'intégration européenne? Ce sont d'abord, pour les moins informés, des questions élémentaires. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne? Quels sont les pays membres? Quels sont qu'elle sous-entend l'intégration est comme ça. Suivant la question plus complexe, quelles sont les institutions de l'Européen, comment prennent-elles la Commission, le Parlement, le Conseil, etc. Enfin, les questions plus ardues pour ceux qui connaissent assez bien ces process, qui participent déjà ou s'occupent de recherches sur ces sujets. Par exemple, la législation européenne dans tous les domaines, le standard, les recherches européennes, évolution d'économie, éducation, le médecin, écologie, agriculture, etc. Le droit d'homme, ensuite l'administration locale et publique, etc. En informant et orientant et informant les usagers et la population à la question de l'Union européenne, l'intégration européenne, la bibliothèque effectuait en même temps sa mission principale de base, collecter, cataloguer, stocker et informer ses usagers de manière moderne, efficace et qualitative. La formation et l'orientation des citoyens, la population en général, en question qui pourrait crucial pour l'existence. L'existence et leur développement. L'augmentation de ces utilisateurs et à mesure qui créent leur intérêt pour ces questions. Comme promoteur des projets et des activités européennes, la bibliothèque est matériellement et financement stimulée dans son travail et son développement par des fonds européens. Elle se place dans une position de leader, devenant la première institution qui est préparée et prête pour l'adhésion dans l'Union européenne. Ensuite, c'est un exemple. Changement, c'est fini. L'attractif.
2 minutes, 3 minutes.
Oui. Ouais. C'est fini. C'est le rôle de la bibliothèque, c'est traduit par l'attractivité de la bibliothèque. Ensuite, les résultats de l'engagement de la bibliothèque, le nombre des utilisateurs, la satisfaction des utilisateurs. C'est la mesure pour évaluer le rôle social de la bibliothèque. C'est ça.
Merci beaucoup. Merci. C'était un exercice qui n'était pas facile parce que vous maîtrisez le français, mais c'est vrai que c'était pas simple a priori comme ça. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir fait l'effort de cette intervention en français devant nos collègues. Annie, maintenant.
Merci. Je m'excuse pour ma prononciation et mon langue française. C'est une petite barrière pour moi.
Annie va nous parler en BPI.
J'ai une question, Thierry. On devait finir à 18h, il est 18h56, donc j'ai combien de...
15 minutes.
On a
commencé en retard parce que Laurence et Christine nous ont pris un peu de temps.
Il n'y a pas de dialogue, du coup.
Si, mais on aura un peu... Après, c'est 19h à la mairie pour aller boire un coup.
Alors, je vais essayer de vous faire ce qu'on appelle une bande-annonce ou du teasing, parce que je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'avais prévu. Donc, rendez-vous à peut-être une autre intervention où je développerai et j'expliquerai pourquoi. Donc, je ne parle pas de la BPI. Je cite deux fois la BPI, je ne la citerai peut-être pas. C'était plutôt l'idée de vous faire un peu un panorama d'expériences vues à l'étranger sur cette question du rôle social des bibliothèques. Alors, évidemment, je passe ça, parce que si vous avez eu le temps de... parcourir pendant que je parle, vous avez deviné que ce petit texte que je vous ai mis là, eh bien, c'est tout simplement le manifeste de l'UNESCO pour les bibliothèques publiques, donc ce n'est pas particulièrement nouveau, et comme les collègues l'ont rappelé, c'est une question qui traverse la profession depuis longtemps. Alors là, je n'ai pas le temps du tout de développer. Pour moi, on emploie une expression à la BPI que je n'aime pas du tout. Nous disons que nous travaillons pour les publics du champ social, pour certains d'entre nous. Personnellement, je n'aime pas du tout cette expression. On fait des actions pour des publics cibles, certes, et on les pense en fonction des publics, mais dire même qu'on travaille pour les publics du champ social, moi je le ressens en tant que bibliothécaire déjà comme... C'est pas ce qu'on dit aux gens, évidemment, mais quand on réfléchit professionnellement, pour moi c'est déjà une forme d'exclusion. Voilà, et je pense profondément que les actions qu'on met en place parfois pour des publics cibles, elles sont aussi utiles à la réflexion globale de la bibliothèque et au service à tous les usagers. C'est ce que je voulais dire avec entre actions spécifiques et universalité de l'offre. Donc, moi je préfère parler d'une bibliothèque citoyenne et inclusive que d'un travail en direction du champ social, et globalement je préfère parler de lien social que de rôle social quelque part. Et donc nous travaillons sur un projet que vous pouvez aller découvrir sur ce site qui s'appelle bibliothèque dans la cité.org. Alors, je suis désolée, j'ai un petit problème avec l'animation, là. Donc, l'idée, c'était de vous montrer quelques expériences à l'étranger sur des thématiques qui traversent cette question du rôle social des bibliothèques et aussi vous dire, vous retransmettre du coup des choses extrêmement positives sur le travail. On se questionne beaucoup sur la diminution de la fréquentation, sur la diminution des prêts. Or, en fait, quand on, et ça existe en France aussi, hein, j'en profite, je voulais dire ça en introduction et j'ai oublié, moi j'étais là pour vous montrer des choses à l'étranger, mais il y a quantité de bibliothèques en France aussi qui font ce travail-là, hein, ne nous méprenons pas, c'est pas, voilà, on n'est pas allé chercher. Donc ça tombe bien, j'avais prévu de vous parler un peu longuement de Queen's Library à New York, mais dans le dossier de Livre Hebdo, il y a un long développement sur cette bibliothèque de New York, donc le New American Program, qui nous a été présenté en novembre à la BPI par Fred Gittner. Et donc Véronique Hurtematt a fait un excellent article que je vous invite à lire, parce que vous verrez, pour une bibliothèque qui bâtit tout son projet autour de cette question de travailler pour la communauté au sens anglo-saxon, c'est-à-dire pas pour des communautés au sens communautariste du terme, mais pour la communauté des citoyens qui fréquentent la bibliothèque et pour qui elle est faite. Et donc tout leur programme est bâti là-dessus, et donc ils sont, j'allais dire quelque part, c'est même pas que c'est le rôle social de la bibliothèque, c'est le rôle de la bibliothèque de travailler pour les citoyens. Le secteur de Queens, c'est je ne sais combien de nationalités, c'est des populations très majoritairement des immigrants, je ne sais combien de langues, et donc il y a tout un programme qui est mis en place que je vous invite à découvrir dans Livre Hebdo. Et puis, il se trouve qu'on vient d'avoir les résultats d'une enquête conduite dans 17 pays européens, alors, qui était concentré sur l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les bibliothèques et les bénéfices qu'en retire la population, et sur la perception des usagers, que les usagers eux-mêmes ont des impacts des bibliothèques sur leur propre vie et du rôle des bibliothèques. Donc, voilà, j'émaille ce marathon-là, enfin, c'est même plus un marathon, c'est un sprint, de quelques éléments qui viennent de cette enquête. Donc, au sein des pays de l'Union européenne, 24 millions d'adultes ont participé à des activités de formation, informelles et non formelles, c'est-à-dire pas des formations donnant lieu à des délivrances de diplômes au cours de l'année écoulée. Et donc même si les statistiques, on leur fait dire tout ce qu'on veut, quelquefois aussi pour convaincre les élus, il faut des faits. Et voilà, 24 millions d'adultes, ce n'est peut-être pas tant que ça par rapport à la population européenne, mais c'est quand même un chiffre assez conséquent. Les groupes les plus concernés, ça c'est intéressant, sont les seniors, les migrants et les minorités ethniques. On est au niveau de l'Europe, hein, donc ce n'est pas forcément la situation française spécifiquement. C'était donc pour souligner l'importance de l'activité de formation et d'éducation. Alors voilà quelques exemples, très vite, hein, vous regarderez les. Voilà. On mettra de toute façon le PowerPoint, alors peut-être sur le site de l'ABF, sans doute, et on le mettra aussi sur la rubrique professionnelle de la BPI. Donc un atelier informatique pour les seniors à Helsinki. Barcelone, un programme d'ateliers sur 2 jours entiers, hein, qui est en l'occurrence le mardi et le jeudi, une succession d'ateliers pour se former à toute une série de questions d'utilisation de l'informatique à tous les niveaux, depuis la base jusqu'à l'utilisation de logiciels un peu plus pointus. Donc, lutter contre la fracture numérique, l'enquête européenne a insisté aussi sur cet aspect, et moi, personnellement, quand j'ai lu le rapport, qui va bientôt être diffusé, hein, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même 4,6 millions d'adultes qui ont utilisé pour la première fois de leur vie un ordinateur pour accéder à Internet dans une bibliothèque. 3,4 millions d'adultes, alors ce sont évidemment des extrapolations à partir des 17 000 personnes enquêtées en Europe, 3,4 millions d'adultes n'ont pas d'autres moyens que les bibliothèques pour accéder gratuitement à Internet. Et encore une fois, les publics les plus concernés, vous les avez là, on retrouve ça assez constamment tout au long de l'enquête. Je reviens à un exemple, encore à Helsinki, juste pour montrer que tout à l'heure vous aviez un cours, là vous avez une intervention individuelle, c'est-à-dire qu'il y a à la bibliothèque, pas forcément en permanence, mais à certaines heures, quelqu'un qui est là pour aider individuellement des gens qui ont des difficultés avec le maniement de leur ordinateur. Une dimension que Fabrice a évoquée tout à l'heure, hein, c'est la question de l'orientation professionnelle et de l'emploi, hein, de mettre en place des services. Là aussi, il ne s'agit pas de faire le travail de Pôle emploi, mais d'être des lieux où les usagers peuvent trouver des ressources pour les aider dans leur recherche d'emploi, dans leur questionnement sur les orientations, les réorientations professionnelles, puisqu'on sait que on doit actuellement, au cours d'une vie professionnelle, on change quand même assez souvent de métier. Donc, dans le même ordre, dans le même champ, une conférence sur les métiers. Alors aussi, pour montrer, là, vous voyez, c'est une conférence à Helsinki. Et donc, les métiers en question, c'est voulez-vous être musicien, voulez-vous être acteur, voulez-vous être animateur télé. Donc, c'était juste pour dire qu'on n'était pas non plus forcément à toujours présenter des métiers, je veux dire... vraiment que la gamme peut être très très large, hein, depuis des métiers manuels, des métiers intermédiaires et jusqu'à des métiers du secteur culturel. Une autre forme pour faire ça, ça se pratique pas mal dans les pays scandinaves, avec des gens qui le font bénévolement, c'est-à-dire que c'est pas les bibliothécaires, là, les experts, emprunter un expert, c'est pas un bibliothécaire. On peut aussi quelquefois emprunter un bibliothécaire, mais là, en l'occurrence, on emprunte un expert, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec quelqu'un qui, à titre bénévole, vient vous parler de son métier. Et donc, la bibliothèque, c'est une bibliothèque de quartier de Copenhague, dispose d'un échantillon de gens qui, bénévolement, viennent, acceptent de venir parler de leur métier à quelqu'un qui s'interroge sur le métier qu'ils souhaitent exercer. Là aussi, quelques chiffres, alors je ne vais pas les lire, hein, vous y reviendrez tranquillement, sur le fait que les bibliothèques jouent un rôle effectif, alors peut-être pas si important en quantité, et puis c'est très variable d'un pays à l'autre, en fait, puisque là on est sur une extrapolation à l'ensemble de l'Europe. Mais ce sont quand même des chiffres qui, en fait, l'objectif de l'enquête, j'aurais peut-être dû vous le dire au départ, c'est de montrer au niveau de l'Europe que les bibliothèques s'inscrivent dans la stratégie globale de l'Europe qui ne parle pas des bibliothèques, jamais. Parce que sur ces questions d'inclusion sociale, d'intégration des populations fragiles ou des migrants, ou des populations, des minorités ethniques, il y a beaucoup de politiques européennes qui se préoccupent de ça. Jamais, jamais, elles n'imaginent qu'une bibliothèque peut participer de cette politique. Et donc l'objectif de l'enquête, c'est ça. C'est de montrer... que la bibliothèque, dans la première table ronde cet après-midi, on a beaucoup parlé de la politique culturelle. Certes, la bibliothèque fait partie de la politique culturelle, mais la bibliothèque, elle fait partie d'une politique publique, beaucoup plus globalement qu'une politique culturelle. Voilà. Et cette enquête vise à montrer, à rappeler, à mettre quelque sorte le focus sur les bibliothèques aussi sous cet angle-là. Et on considère qu'on aura déjà gagné quelque chose si dans ces politiques européennes apparaît quelquefois le mot bibliothèque. On n'en est même pas à imaginer qu'on arrive à obtenir de l'argent peut-être directement de l'Europe pour les bibliothèques, mais qu'on puisse faire rentrer les bibliothèques dans ce champ. Donc ce sont aussi des lieux où on peut trouver des repères pour se guider dans les démarches de la vie quotidienne. Donc là, je vous ai remis l'exemple de la BPI, hein, du secteur vie pratique, santé, vie affective et familiale, aussi les loisirs, enfin on peut trouver tout un... Donc ce ne sont pas forcément de la documentation. Une autre manière de le faire, c'est de faire venir à la bibliothèque, et on est revenu à New York, des gens d'autres structures qui viennent présenter ce qu'ils proposent, donc une démarche sur la santé par le Queen's Hospital à New York, qui est faite en partenariat. Je fais le lien aussi avec ce que disait Fabrice. Dans beaucoup de ces exemples, on met en jeu des partenariats. Citer celui qui a été mis en place à la BPI, alors qui est présenté dans le livre hebdo aussi, hein, dans le dossier ABF, donc que vous pourrez lire en détail. C'est un partenariat noué par la BPI avec l'association France Terre d'Asile et qui se traduit par la présence deux fois par semaine de quelqu'un de cette association, alors qui parle trois ou quatre langues, le farsi, le pashto, enfin, je vais en oublier, et qui est là à la disposition et qui va éventuellement au-devant des usagers, enfin en l'occurrence le public visé, ce sont les immigrés afghans qu'on a vu arriver en nombre à la BPI, à la fois pour les aider à connaître leurs droits, à faciliter des démarches et leur faciliter aussi l'apprentissage de la BPI. Un autre domaine, hein, on était dans la vie pratique et dans les démarches citoyennes, alors c'est peut-être anecdotique mais ça m'a amusée, la photo... je ne sais pas comment vous montrer ça, la photo où vous voyez les tubes, là, en fait, ce sont simplement des endroits pour venir mettre les piles usagées, comme il y en a dans plein d'endroits. Mais il se trouve qu'à Barcelone, il y en a aussi dans les bibliothèques. Parce que pourquoi pas ? La bibliothèque, c'est aussi un lieu de la vie quotidienne. Et de la même manière aussi, dans beaucoup de bibliothèques à Barcelone, la machine rouge, là, c'est une machine en fait, qui sert à faire des démarches liées à la municipalité, enfin à la vie administrative, on va dire citoyenne, et qu'on peut faire à la bibliothèque, et on la trouve dans toutes les bibliothèques, enfin au moins celles qu'on a pu voir dans ce voyage à Barcelone. C'est-à-dire que la bibliothèque, elle est incluse aussi comme ça dans la cité. Elle est aussi, parce qu'elle est un lieu pour faire des démarches qui ne sont pas forcément des démarches documentaires, des démarches de recherche, ni même des démarches de lecture. Et on ne fait pas que ça. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que la bibliothèque de demain, c'est juste un endroit où on met des piles et où on a une borne pour faire des démarches. Mais c'est aussi ça, la bibliothèque. Et puis, c'est un lieu de travail. Alors, on dit tous, hein, à la BPI, on est bien placé pour le savoir, puisque la célèbre queue de la BPI, c'est quand même aussi beaucoup les étudiants qui viennent y travailler. Et beaucoup de bibliothèques municipales, on voit de plus en plus d'étudiants arriver travailler à la bibliothèque. Ce n'est pas forcément un mal en soi, mais ça nous pose quelques questions, puisque la mixité des publics, certes, mais parfois aussi un public chasse un peu l'autre public. Et donc à Barcelone, ils ont une réponse dont je trouve qu'elle mérite d'être regardée. C'est qu'il y a des salles d'études, hein, donc pratiquement pas toutes, mais dans presque toutes les bibliothèques du réseau de Barcelone. Salle d'études qui est ouverte sur la bibliothèque, mais qui, le soir, quand la bibliothèque ferme, la salle d'études, elle n'y a pas de collection. Donc la salle d'études, elle reste ouverte. Il y a quelqu'un qui fait du gardiennage, hein, qui assure la sécurité, il n'y a pas de bibliothécaire. Et les gens viennent travailler. Alors vous me direz, bon, d'accord, ça pourrait être ailleurs, d'ailleurs, que dans une bibliothèque. L'intérêt, c'est quand même aussi à la bibliothèque. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que ça rencontre un grand succès. Donc peut-être entendons ça aussi. Hein. Quelquefois, voilà, ouvrir la bibliothèque plus tard le soir, d'accord, mais les questions de personnel. Voilà. Il y a aussi des solutions comme ça qui peuvent peut-être être cherchées pour répondre à une attente qu'on entend de la part des usagers. Les deux collègues du Portugal et de Serbie ont dit qu'il était important d'entendre l'attente des usagers. Alors, je passe rapidement sur cet aspect multiculturel. C'était un exemple à Brême d'action faite pour que les gens se rencontrent dans leur diversité. Que ce soit en l'occurrence, c'est une conférence et c'est une affiche qui a été faite à la suite d'une animation où des lecteurs ont été photographiés. L'idée étant de montrer, voilà, nous représentons la variété. Bon. On parlait tout à l'heure du prix Livre Hebdo. Ben, Louise Michel, c'est le grand prix Livre Hebdo de 2012. Convivialité. Donc à Louise Michel, on prend le thé à la menthe. Hein, et donc nous, quand on est allé visiter la jeune femme dont je ne connais plus l'origine au niveau de son pays, je trouve pas la souris. Donc la jeune femme qui a une écharpe bleue, en fait, c'est une. Elle a un statut de travailleur social, elle est dans l'équipe de la bibliothèque et elle assure aussi dans ce quartier d'une très grande diversité culturelle, elle assure un lien, j'allais dire, un peu permanent avec le public. Toute l'équipe est là-dessus, de toute façon. Et donc, on sert le thé à la menthe et on va le proposer aux usagers qui sont là à ce moment-là. Ça peut paraître anecdotique. J'ai choisi cette photo pour dire aussi qu'il y avait une diversité du public, il y a une diversité du personnel à la bibliothèque Louise Michel aussi. Et ça, en France, c'est... Ça, quand on a la chance d'aller à l'étranger, voir un peu, visiter des bibliothèques, dans beaucoup de pays quand même, il y a une plus grande diversité du personnel des bibliothèques, hein, qui est plus représentative de la mixité de la population que nous le sommes en général en France. Voilà, je vais peut-être terminer, puisqu'on a fini, avec la déclaration de mission de la bibliothèque de Queens. Offrir des services de qualité, des ressources et la possibilité de l'apprentissage tout au long de la vie dans des livres et une variété d'autres formats pour répondre aux besoins et aux centres d'intérêt d'une population ethniquement diverse et changeante dans les domaines de l'information, de l'éducation, de la culture et des loisirs. Et je ne vous ai pas mis un autre morceau de la présentation qu'avait fait Fred Gittner qui dit « Servir les populations immigrées, c'est servir toute la population ». Et juste pour finir, je suis désolée, voilà, je vais passer les autres. Dans l'enquête européenne, on a interrogé la population. C'était une enquête à plusieurs niveaux. Les usagers des bibliothèques, les usagers qui utilisent Internet à la bibliothèque et une enquête auprès de la population. Bon, voilà, ça c'était peut-être pour se faire plaisir. Voilà ce que répondent les gens sur la bibliothèque. Elle est accessible à tous. En tout cas, ça renvoie à bibliothèque idéale, là aussi. Elle fournit des informations à ceux qui n'y ont pas accès. Elle est accueillante, bienveillante. Elle est politiquement neutre. La collègue du Portugal, Manuela, l'a évoqué. Le personnel est considéré comme très qualifié. Et la bibliothèque est moderne et innovante. Donc une image très positive hein, qui nous est renvoyée, ce n'empêche pas qu'on se pose des questions. Et là, c'était une expérience, en fait, de... Un sujet que je trouve intéressant à creuser aussi, c'est lorsqu'on pense la bibliothèque, lorsqu'on la conçoit, lorsqu'on est en train de travailler un APS, comment travailler avec la population. Et donc cet exemple-là, c'est un exemple des enfants de Hugo Award aux Pays-Bas, qu'on a fait travailler sur le projet de bibliothèque. Il y a d'autres exemples et de démarches vraiment participatives, hein, pas des démarches artificielles où en fin de projet, les élus viennent et les bibliothécaires viennent présenter à la population, posent des questions, mais en fait tout est déjà fait. C'est vraiment une démarche en amont. Et voilà. Et donc pour finir, je ne peux que vous inviter à aller voir le travail collaboratif qu'on essaye de démarrer sur donc cette question du rôle social des bibliothèques sur ce site bibliothèquedanslacité.org. Éventuellement aussi à passer nous voir sur le stand de la BPI si vous voulez en savoir plus sur ce site. Et entre autres, on a prévu une rencontre vendredi midi autour d'un verre si vous souhaitez parler de cette question de la place des bibliothèques dans la cité. Merci.
Il est 18h20, on peut prendre une question ? On peut prendre une question. Vous savez, l'hôtel de ville, c'est vraiment pas loin. On n'a pas de questions. Donc je vais donc conclure en vous remerciant d'une part de votre attention, mais surtout mes quatre intervenants. La conclusion, elle va être brève, à la fois... On voit bien la nécessité, on le sait, mais en même temps les dangers, ils ont été montrés, en tout cas au Portugal. Il me semble que personne n'est jamais à l'abri, on l'a su aussi en Grande-Bretagne, de fermeture, de coupe, d'austérité pour les bibliothèques, et on sait très bien que la difficulté ensuite serait de remonter cette pente. Donc je pense que plus que jamais, il faut que nous soyons vigilants. Annie a bien fait de montrer les actions qui sont menées ailleurs parce que ben, c'est aussi le public qui nous porte et qui font vivre, le public fait vivre nos bibliothèques et qui finalement fait vivre ses propres besoins et sa propre soif de connaissance et de culture. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris la parole et d'être intervenu aussi pertinemment tous les quatre.